Radio Kapi. Oh, Kapi. Journal présenté par Noéla Luzitu Kabambi.
Vital Kamerhe est élu depuis hier mercredi président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Union sacrée pour la nation est passé avec 371 voix sur 407 votants. Il va travailler au bureau de la Chambre basse du Parlement avec Jean-Claude Tshilumbay, Christophe Mboso, Jacques Joly, Dominique Munongo, Chimène Polipoli et Grace Nehene, tous élus aussi hier. Dans ce journal, le premier propos de Vital Kamerhe en tant que président de l'Assemblée nationale de cette législature. La cité de Lukala au Congo central est sous couvre-feu depuis hier. La décision est prise par le Conseil local de sécurité, 3 jours après l'attaque du Palais de la Nation et la résidence de Vital Kamerhe dimanche. C'est pour dénicher toutes les personnes habitant la cité de Lukala qui seraient impliquées de près ou de loin dans ces attaques. Le coordonnateur du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base prise est notre invité. Depuis Kananga au Kasaï central, Deon Sunzu est en mission de supervision des programmes de construction des ouvrages dans l'espace Kasaï. Bonjour à tous. C'est confirmé. Vital Kamerhe, Lwakaningini Kingi, a été élu hier, mercredi, avec 371 voix sur 407 votants, président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Union sacrée pour la nation, partenaire de la première heure de Félix-Antoine Tshisekedi, va désormais présider au destin de cette chambre basse du Parlement. Dans le même bureau, il aura à travailler avec Jean-Claude Tshilumbay, Christophe Mboso, Jacques Joly, Dominique Munongo, Chimène Polipoli et Grace Nehene, tous élus aussi hier mercredi. Prenant la parole après son installation, le nouveau président de l'Assemblée nationale a invité les députés nationaux à beaucoup de sacrifices pour travailler en faveur du peuple congolais qui a tant souffert. Vital Kamerhe est au micro de Michel Kifin Dangoy.
Cet événement intervient au moment où les ennemis de la démocratie ont agi de manière criminelle contre notre État, sémant un fleuve de sang dans une aventure de prédation qui n'a que trop duré et à laquelle nous sommes déterminés de mettre fin. Dernièrement encore, nous déplorons l'incursion d'un commando qui a tenté en vain de déstabiliser les institutions de la République et dont ma famille et moi-même avons été victimes et nous avons eu la vie sauve grâce à la miséricorde divine. Nous allons ensemble transformer ce qui apparaît actuellement comme une malédiction de nos ressources naturelles en un véritable atout qui va placer la RDC au cœur de la transition énergétique à laquelle l'humanité et contrainte suite aux effets néfastes du changement climatique.
L'installation du nouveau bureau définitif de l'Assemblée nationale est un ouf de soulagement après plusieurs mois d'attente. Salue les députés qui se disent impatients de s'occuper des problèmes de la population. L'élu des Faradj, Étienne Andrito, recommande à ce bureau de faire du contrôle parlementaire la priorité de cette législature afin d'améliorer la gouvernance publique du pays. En réaction, le professeur Jacques Joly, élu rapporteur, assure que son bureau programme examiner les matières susceptibles à apporter des réponses aux problèmes de la population tout en renforçant la gouvernance participative. Les détails avec vous, Michel Kifin Dangoy.
Satisfait de l'élection du président Kamerhe, président de son parti, l'UNC, l'élu des Faradje souhaite que ce Parlement contribue en priorité à l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Étienne Andrito.
Notre pays a énormément de problèmes. Le bureau définitif doit nous faciliter que tous les moyens de contrôle soient de libre passage, qu'il y ait des enquêtes parlementaires. C'est l'Assemblée qui doit aider le gouvernement pour que le gouvernement puisse travailler comme exécutif en faveur de la population.
Le rapporteur élu de l'Assemblée nationale promet à la suite du président Vital Kamerhe de faire de la Chambre basse du Parlement le temple de la démocratie participative. Jacques Joly.
L'opinion a l'impression que les députés ne s'occupent pas de la sécurité, de l'eau, de l'électricité, de l'état de route. Il faut donc résoudre ces paradoxes pour amener de vrais problèmes de la société au niveau du Parlement. Il faut renforcer la démocratie participative.
Parmi les priorités du bureau définitif de l'Assemblée nationale, Il y a notamment l'investiture du gouvernement, la mise en place des commissions permanentes et le contrôle parlementaire.
Pendant ce temps, à 2 jours des élections sénatoriales et de gouverneurs de province à l'Équateur, l'archevêque de Mbandaka Bikoro appelle tout le monde à l'unité. Monseigneur Ernest Mboko l'a dit hier, mercredi à Mbandaka, dans une déclaration lue devant la presse par son délégué Abbé Louis Iyeli. Le prélat catholique invite les acteurs politiques, ceux de la société civile et le peuple de l'Équateur en général à fédérer leurs efforts en vue des élections apaisées et le choix de bons dirigeants capables de redresser la province avec un nouvel élan. Le condensé de cette déclaration avec vous, Paul-Richard Malengela.
Dans sa déclaration, l'archevêque de Mbandaka Bikoro dénonce le fait que toutes les misères du monde se soient données rendez-vous à l'Équateur. Pourtant, c'est une province de promesses avec d'immenses bénédictions et richesses naturelles. À la base de cette misère notoire, Ernest Mboko cite d'abord la mauvaise gouvernance, laquelle explique la détérioration des infrastructures routières, économiques, scolaires et sanitaires, mais aussi le pillage des ressources naturelles au mépris de la population et la transformation des cours d'eau en cimetières de masse faute d'embarcations dignes. Par ailleurs, la classe politique rajoute aussi à cette misère par son égoïsme, son manque de charité et d'amour de la province. Les politiciens, a-t-il indiqué, se plaisent plutôt dans la division, le clientélisme et la prise en otage des institutions provinciales. Le report des élections à l'Équateur en est une preuve éloquente. C'est pourquoi, à l'occasion des scrutins du 24 mai prochain et au regard des attentes de la population, l'archevêque Mboko exhorte tous, mais particulièrement les grands électeurs, à l'unité et à l'engagement collectif pour le développement et le bien-être social. Ainsi, espère-t-il, l'Équateur va se redresser et prendre le plus bel élan. Bandaka, Paul Chamanguela, Radio Okapi.
Nous en parlions dans le sommaire. Au Congo central, la cité de Lukala, territoire de Mbanzangungu, est placée sous couvre-feu à partir de 23 heures depuis hier mercredi. Décision prise par le Conseil local de sécurité. Selon le Conseil, cette mesure vise à dénicher toutes les personnes habitant la cité de Lukala qui seraient impliquées de près ou de loin dans les attaques du dimanche contre la résidence de Vital Kamerhe et le palais de la nation. Willy Makumbani, administrateur du territoire de Mbanzangungu, invite par conséquent la population à soutenir cette mesure en respectant les instructions des services de sécurité et en dénonçant tout mouvement et toute personne suspecte. Nana Plurich Mambo.
La décision du couvre-feu est exécutée par la police et les éléments de la garde républicaine déployés à la cité de Lukala au lendemain des attaques du dimanche. Cette mesure vise les personnes se promenant sans raison valable et sans carte d'identité au-delà des 23 heures, les motocyclistes, les maisons commerciales ainsi que les débits de boissons qui fonctionnent au-delà des 23 heures. L'administrateur des territoires de Mbanzangungu dit avoir arrêté ces dispositions pour permettre aux services de sécurité de mettre la main sur les personnes habitant la cité de Lukala qui seraient impliquées dans la tentative de déstabilisation des institutions le dimanche 19 mai. Depuis le dimanche, les éléments de la garde républicaine déployés en grand nombre à Lukala ont perquisitionné notamment l'hôtel Elena Garden, la maison de John Gleman et la maison des médiums de Lukala appelée Farafara. Selon Willy Makumbani, des armes à feu de marque calibre 12, une bottine, une baïonnette et une somme importante d'argent ont été récupérées. Il appelle ses administrés à coopérer avec les services de sécurité en dénonçant les personnes suspectes. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, l'armée et le 1-23 se sont affrontés toute la journée d'hier mercredi sur les collines surplombant l'axe Bwerima-Nachacha dans le sud du territoire de Masisi. Selon des sources proches de l'armée, les FRDC ont repris le contrôle de certaines collines autour de Ndumba. Sur l'axe nord, dans le territoire de Rutshuru, une accalmie a été observée hier mercredi dans la soirée après des violents combats dans la matinée autour de la Ruindi. Sur cet axe, nos sources précisent que les lignes n'ont pas bougé. Les belligérants maintiennent leur position. Sachez par ailleurs que la situation dans l'est de la RDC, les attaques armées du dimanche ainsi que les relations bilatérales étaient au centre d'un entretien téléphonique hier mercredi entre le président Félix Tshisekedi et Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. C'est ce qu'indique le compte X de la présidence de la République congolaise. Dans l'espace Kassai, la cour militaire de l'ex-Kassai occidental, siégeant en chambre foraine, a débuté les audiences dans le procès qui met en cause des anciens miliciens Banamoura, certains responsables politiques et les forces de sécurité pour les actes commis dans le territoire de Kamonia. Cette affaire rentre dans le cadre des violences liées aux événements de Kamuina-Nsapu entre 2016 et 2017. François Kadima nous en parle.
Les audiences ont débuté dans l'enceinte du tribunal militaire de garnison de Chikapa. Cette affaire oppose le ministère public et les parties civiles contre certains responsables, notamment un ancien vice-gouverneur du Kassai, un haut gradé de la police nationale congolaise et d'autres prévenus. Les deux premiers cités sont accusés d'avoir participé à la formation et la conduite de la milice Banamoura en 2017 qui, en réponse au mouvement Kamuina-Nsapu, avait mené des attaques ethniques dans le territoire de Kamonia. Les habitations de plusieurs villages ont été brûlées alors que les personnes, dont les enfants, étaient à l'intérieur. Deux meurtres et deux actes de torture ont également été perpétrés, les femmes et les enfants enlevés. Le ministère public qui porte ces accusations soutient que pour ces actes, les acteurs pointés sont poursuivables pour infraction de participation à un mouvement insurrectionnel, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de détention illégale d'armes de guerre, d'associations de malfaiteurs et de terrorisme. La cour militaire de l'ex-Kassai occidental basée à Kananga s'est déplacée en audience foraine dans la ville de Chikapa pour faciliter l'accès à la justice à plus d'une centaine de victimes constituées en partie civile dans cette affaire. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Parlons économie à présent. Le franc congolais continue à perdre sa valeur face au dollar américain notamment. Pour obtenir un dollar américain aujourd'hui, il faut débourser entre 2820 et 2840 francs congolais sur le marché parallèle. Quelles sont les raisons de cette situation? L'économiste Lems Kamwanya explique qu'on trouve à ce jour beaucoup de gens qui détiennent la monnaie locale et sont à la recherche des dollars américains. C'est pour des besoins soit d'importation ou simplement effectuer des paiements à l'étranger. Il dit regretter la lenteur dans la formation du gouvernement qui, toujours d'après lui, favorise un laisser-aller dans la prise des mesures nécessaires pour protéger la valeur de la devise nationale sur le marché de change. Lems Kamwanya est au micro de Cynthia Bachizi Nabizana.
La dépréciation continue du franc congolais. Elle est largement tributaire de la situation des finances publiques, lesquelles sont aujourd'hui peut-être un peu prises à mal par la hauteur des dépenses comparativement au niveau des recettes publiques réalisées par les régies financières et les autres sources de finances pour l'État. Nous sommes presque convaincus que si aujourd'hui les francs congolais se déprécient, on trouve les gens avec suffisamment de francs congolais qui recherchent les dollars américains pour arriver à effectuer leurs importations ou à effectuer certains paiements à l'extérieur. C'est cette pression qui est sur les marchés d'échange qui explique le fait que les taux ne fait que se déprécier. Donc les gens sont en train de demander de plus en plus de devises étrangères en voulant se les francs congolais. C'est une situation qui devient de plus en plus inquiétante. Malheureusement, nous sommes dans une période où on est en train de vouloir mettre en place de nouvelles institutions. Il y a parfois un laisser-aller ou peut-être une certaine négligence au niveau des régies financières et il n'y a pas suffisamment de mesures qui sont prises pour s'assurer. On essaye de protéger la valeur de la devise nationale sur les marchés d'échange.
Au Kassai oriental, c'est le maire de Mbujimayi qui s'insurge contre l'exploitation illégale de diamants dans les parcelles résidentielles dans les quartiers PH Tubondo, Mulamba Wampoi, dans la commune de la Kanchi, et au quartier Croix-Rouge, commune de Djulu, ainsi que le quartier Tchombela, dans la commune de Bipemba. Ces creuseurs artisanaux sont souvent sécurisés par des hommes en tenue de police ou en tenue militaire. Jean-Marie Lutumba Katupomoy met également en garde les propriétaires des parcelles et les creuseurs artisanaux clandestins contre cette pratique qui, selon lui, tente à détruire la ville. Jean-Marie Lutumba s'exprime ainsi au micro d'Esther Ndalafina.
Moi-même, j'étais sur terrain. J'ai invité le responsable de la police Minidro qui doit tenir une réunion ensemble avec moi parce que j'ai constaté que pendant la journée, ces travaux-là ne sont pas effectués. Mais lorsque vous êtes vers les heures tardives, vous trouverez qu'on est en train d'exploiter. Parmi les mesures qui ont été déjà prises, les chefs de tous ces quartiers-là sont interpellés, y compris les responsables des parcelles où les travaux sont en train d'être effectués. Pourquoi les responsables? Parce que ces responsables là ils ont un contrat avec l'État. Le contrat, c'est de jouir de ces parcelles-là en occupant pour s'installer, vivre là pendant leur vie. Mais dès lors que nous trouvons qu'ils sont allés au-delà des clauses de contrat, il y a eu exploitation artisanale et illégale, j'ajoute, ils n'ont jamais informé les autorités. Nous apprenons ça par les voies des ondes et selon nos enquêtes et nos sources privées, on parvient à découvrir qu'on est en train d'exploiter dans des parcelles résidentielles. L'État ne doit pas se laisser faire. L'État récupère la situation. C'est pourquoi il y a plusieurs personnes qui seront interpellées. Nous chercherons à connaître quels sont ces policiers-là que nous trouvons sur terrain et ils proviennent de quelles unités de police.
Dans le domaine de la santé, parlons de la 5e campagne de chirurgie pédiatrique gratuite qui a officiellement commencé le mardi au Centre médical Diamant de Lubumbashi. Elle est assurée par une équipe de spécialistes américains assistés des Congolais. Tous les soins opératoires et post-opératoires sont gratuits. Notons que l'enfant le moins âgé concerné par cette campagne a 8 mois seulement. Les détails avec Jean Gandou.
L'actuelle campagne s'étend sur 2 semaines. Elle cible une 20aine de patients. Si la plupart sont de Lubumbashi, certains viennent de Likasi, de Kolwezi, de Kinshasa, de l'Angola, du Zimbabwe et du Nigeria. Un enfant kényan est mort avant de rejoindre la ville de Lubumbashi. Pour cette édition, les organisateurs annoncent qu'exceptionnellement, une jeune femme de 23 ans et un homme de 44 ans sont aussi sur la liste. Joseph Sambibulanda, le ministre provincial de la Santé dans le Haut-Katanga, présent à la cérémonie du coup d'envoi, se dit satisfait que la ville de Lubumbashi reçoive les malades d'autres pays comme au beau vieux temps vers les années 60. Pour Karim Tardjin, le responsable du centre médical Diamant, les médecins et autres personnels soignants congolais assistent ceux qui viennent de l'extérieur, ce qui fait que dans la délégation américaine, les spécialistes sont de moins en moins nombreux comparativement aux fois précédentes, car à chaque campagne, les Congolais renforcent leur capacité en la matière. L'objectif est de les voir d'ici 2030, qui marque la fin du partenariat, assurer seule cette chirurgie. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Deux chroniqueurs connus en Tunisie qui étaient poursuivis en vertu d'une loi sur les fausses informations pour avoir critiqué le pouvoir du président Kais Saied ont été condamnés hier à 1 an de prison chacun.
L'invité.
Le coordonnateur du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base prise est notre invité en mission de supervision des programmes de construction des ouvrages dans le Kasaï. De Onsunzo a visité différentes infrastructures construites et équipées dans la première phase du projet. Il s'agit des centres de santé, des écoles, des points d'adduction d'eau potable et des marchés. Saluant le fait que ces ouvrages aident la communauté, De Onsunzo rappelle aux bénéficiaires la nécessité de veiller surtout à leur gestion et entretien. Il s'entretient ici avec François Kadima.
Monsieur De Onsunzo, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Il y a des infrastructures qui ont été construites, de marchés, Tambo Saint-Bernard, Zapo, ailleurs. Alors, vous avez fait une ronde. Quelle évaluation faites-vous de ce qui a été fait dans le cadre de prise?
Notre mission aujourd'hui, d'abord, c'est de voir comment est-ce que ces ouvrages sont gérés et aussi s'assurer que la prise en main lors de la remise de certains de ces ouvrages aux autorités provinciales peut vraiment assurer la pérennisation. Pour les écoles, nous avons constaté qu'il n'y a pas de problème. Pour le centre de santé, évidemment, il n'y a pas de problème. Mais seulement, aujourd'hui, il faudrait qu'on mette bien dans l'esprit de ceux qui nous suivent que ces ouvrages appartiennent bel et bien à la communauté, notamment à la province. Il en est de même aussi pour la gestion. Le projet, c'est un projet qui est limité dans les temps. Donc, un projet, normalement, c'est 5 ans d'exécution et les ouvrages sont remis aux bénéficiaires qui est la province via certains services, notamment décentralisés et d'autres déconcentrés. Aujourd'hui, pour les addictions en eau potable, c'est vrai, vous avez vu, nous avons fait des addictions en eau potable, des châteaux d'eau qui s'étend sur une moyenne de 3 à 14 kilomètres pour certains, avec de bonnes fontaines et de branchements particuliers.
Revenons sur certaines infrastructures, notamment les écoles. Comment la gestion est faite? Est-ce que vous êtes satisfait?
Pour les écoles, nous avons réhabilité, s'il faut dire, des écoles qui avaient des numéros qui existaient déjà. C'était des structures en paille, en rameau. Il y a des écoles qu'on a construites à Zapo, nous avons construit à Luandanda, Tambo Saint-Bernard, Toubouloukou, Mikalaï, bien d'autres sites aussi hein, dans la province. Ça, c'est pour les écoles et en même temps des centres de santé aussi. Lorsque nous avions remis ces ouvrages pimpant neuf aux bénéficiaires et à la province, ces ouvrages ont fonctionné ou continuent à fonctionner. Mais seulement, il faut dire une chose, les entretiens de ces ouvrages. À certains endroits, nous avons trouvé que les panneaux solaires n'y étaient presque plus en plein fonctionnement, les batteries qui sont foutues et on attend, c'est que le projet prise vienne réfectionner. Non, c'est pas le cas. Nous avions à son temps recruté une firme qui était censée ou qui a fait la communication, l'information, l'éducation, donc la sensibilisation des bénéficiaires, notamment sur la gestion, la pérennisation de ces ouvrages. Quand je dis que tout marche bien pour nous, c'est que les élèves sont pas dans des pailles, ils sont dans un bâtiment à l'abri des intempéries. Maintenant, c'est des petits réglages, notamment des panneaux solaires, certaines portes qui il fallait juste fixer un clou, ça n'a pas été fait. Ça, ce sont des petites choses, notamment, qui sont, je pense, de la responsabilité des gestionnaires de ces ouvrages. Et là, ce n'est plus la responsabilité du projet prise. Mais d'une manière générale, nous avons constaté que ces ouvrages fonctionnent.
Il l'est de même pour les marchés, les forages.
Oui, pour les marchés, je voudrais quand même placer un point là-dessus. Ce sont des marchés que nous appelons des espaces à vivre. C'est-à-dire que ces espaces à vivre contiennent les étalages, donc les marchés, boutiques, pharmacies, abattoirs, aires de stockage, aires d'abattage et d'autres éléments, moulins, connexes qui sont rajoutés à cet espace à vivre ou au marché. Ces ouvrages ont été remis aux bénéficiaires, notamment à la province, via les autorités communales. Mais à certains points, comme Lambeau-Saint-Bernard, nous étions surpris que la population n'utilise pas ces marchés suite à un mot d'ordre qui a été donné par un chef coutumier de la place, estimant qu'il fasse peut-être une cérémonie coutumière et que les marchés devraient porter son nom. C'est vrai, ce n'est pas de nos prérogatives, notamment, de participer à la gestion de ces ouvrages. Nous nous sommes dit, pour trouver une solution, nous allons saisir l'autorité locale, notamment les gouverneurs des provinces, et ensemble avec les différentes autorités communales et administratives et coutumières, trouver une solution parce que cette population n'attend que ces ouvrages. Vous savez, ces marchés, la population l'occupait déjà et c'était de l'engouement. Mais après, vous revenez 2 ans après, on vous dit non, l'ouvrage, ils savent pas occuper parce que il y a eu un mot d'ordre et ça nous gêne et ça dérange le bailleur aussi parce que ce sont des ouvrages à un appui du gouvernement congolais par la Banque africaine de développement.
Alors, qu'est-ce qui va suivre dans la phase 2.
Alors, qu'est-ce qui est prévu? D'abord, le projet prise, lorsqu'il a commencé, c'est un projet d'exécution dans la zone centre de la RDC. Aujourd'hui, avec la phase 2, vu l'impact de ce que le projet prise a réalisé dans les grands Kassai, le gouvernement congolais a estimé qu'il était important d'étendre les cercles de rayon d'action du projet prise par l'ajout de l'ancien Grand Bandundu, c'est-à-dire la province de Kwilu, Kwango, Maïndombe. Nous avons maintenant la province de Maniema aussi et la province de Holo même. Donc, ça fait aujourd'hui dans l'actif 10 provinces dans lesquelles le projet prise va intervenir pour la phase 2. Alors, particulièrement dans la province du Kassai central aujourd'hui, ce n'est qu'une continuité d'interventions du projet prise.
Monsieur Deo Souzou, nous vous disons merci.
Et c'est par cet entretien entre le coordonnateur du projet prise, Deo Souzou, et François Kadima que prend fin ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.